Les moments musicaux de l'Académie Clémentine. Alors vous savez que cette émission est destinée à rediffuser les concerts que l'Académie Clémentine donne à l'église Saint-Georges de Cannes, mais entre deux concerts, nous avons aussi des invités. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Aurore Busser. Bonjour Madame Busser.
Bonjour.
Et également la secrétaire de l'Académie Clémentine, Nicole Sabag, qui se joint à nous pour cette émission.
Jacques, bonjour.
Voilà, merci. Alors, vous avez sans doute lu le nom d'Aurore Busser tout un chacun dans Nice Matin, où elle rend brillamment compte d'un certain nombre de concerts. Mais en préparant cette émission, j'ai découvert que Aurore Busser avait un talent aux multiples facettes, parce qu'elle n'est pas du tout seulement la critique musicale qu'on peut imaginer. Elle est agrégative de lettres, et je crois que ses goûts vont plus vers, ou autant, ou vers tous les arts, non ?
Oui, tout à fait. Je suis également critique musicale et critique théâtrale et critique chorégraphique. Je ne sais pas aucun des arts.
Voilà, il n'y en a pas qui soit privilégié dans votre cœur, sur le théâtre, la danse.
Bon, c'est-à-dire privilégié peut-être, parce que la musique, on l'a toujours avec soi, on l'a toujours dans la tête, ce qui n'est peut-être pas le cas du théâtre. Je sais bien que je danse dans ma salle de bain.
Est-ce que vous bon. Chantez aussi ?
J'ai une très mauvaise voix.
Mais je crois que vous avez chanté quand vous étiez plus jeune.
Oh, j'ai chanté une ou deux fois, oui. Enfin, j'ai chanté une fois dans une émission de radio, c'était avec Madeleine Renaud, nous avons chanté les chansons du film qui s'appelait La Maternelle. Et la deuxième fois, c'était dans un gala, toujours avec Madeleine Renaud, nous avons rechanté les mêmes chansons.
Voilà. Ouais, c'est très bien, donc c'est ce que je disais, un talent aux multiples facettes. Alors, pour commencer, cette émission est bien évidemment destinée à vous permettre de dire quels sont vos coups de cœur musicaux. Et pour commencer, on va écouter une musique de quelqu'un qui porte le même nom que vous, Henri Busser. On commence par écouter on précise ce que c'est la marche de...
Sa marche de fête.
Marche de fête.
Alors, sa marche de fête, c'est une œuvre qu'il a écrite pour grand orgue et qui a été jouée pour une circonstance tout à fait exceptionnelle. Ça n'était pas la première fois, mais enfin, elle a été jouée cette fois-là pour le jour où il y a eu ce fameux Tédéum à Notre-Dame pour la libération de Paris en présence du général de Gaulle.
Voilà, alors nous écoutons maintenant la marche de fête d'Henri Busser. Alors les auditeurs nous pardonneront parce que c'est un vinyle, donc c'est pas leur radio qui est déréglée s'il y a eu des petits craquements, mais c'est encore un vinyle bien conservé. Vous vouliez ajouter quelque chose, Aurore?
Mais j'ajouterais d'abord que c'est Jean-Louis Durand qui l'interprétait, grand orgue de la cathédrale Saint-Maclou de Rouen. Et là, alors justement, parce que, puisque nous allons parler d'Henri Bucer, on retrouve dans cette marche de fête sa très riche orchestration et puis la grande liberté du sens mélodique de son inspiration. Et évidemment, le phrasé, la somptuosité des registrations de l'orgue en plus.
Je crois qu'il y a une version orchestrale aussi de
voilà, de oui, il y a une version fête. Pour orchestre qui est très, très souvent interprétée, notamment par l'orchestre de la garde républicaine.
Alors nous allons rester un peu avec Henri Bucer, mais alors là aussi j'étais désorienté en découvrant que vous étiez à la fois sa cousine.
Sa petite cousine.
Sa petite cousine, sa filleule, puisqu'il était votre parrain.
Oui.
Vous avez aussi été sa belle-fille, puisque oui. Vous avez épousé son fils, et qu'en fait, il vous appelait sa petite fille.
Voilà, c'est
voilà.
Ça. Et tout le monde continue à m'appeler sa petite fille, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que je suis peut-être la seule de cette génération de la famille qui s'occupe de musique.
Très bien. Et donc, vous occupez de musique, mais vous avez aussi écrit avec lui.
Enfin, oui, effectivement, il a écrit un livre qui s'appelle « De Péléas aux Indes galantes », qui retrace sa carrière à la fois de chef d'orchestre, de compositeur, de professeur de composition, de membre de l'Académie des Beaux-Arts, et qui est un livre extrêmement vivant et très intéressant parce qu'il commence par son plus jeune âge.
Très bien, et on le trouve encore ce...
Non, il est épuisé.
Il est épuisé, malheureusement.
Il a été édité chez Fayard.
Alors, chez Fayard, mais tous sur eBay, donc, pour essayer de trouver le livre.
Et c'est un livre qui rend un immense service à tous les chefs d'orchestre et tous ceux qui s'intéressent à l'opéra et au répertoire de l'opéra. Parce qu'Henri Bucer a été, pendant près de 60 ans, chef d'orchestre de l'opéra comique et de l'opéra. Il dirigeait les plus grandes œuvres et il notait tout ce qui se passait, toutes les répétitions et tout ça. Vous avez tout ça dans le Péléas aux Indes galantes. Et dernièrement, au moment des vœux, Henri Dutilleux, qui avait été son élève, m'a écrit qu'il était en train de lire de Péléas aux Indes galantes et que c'était un enchantement. Alors j'en ai été ravie parce que j'y avais collaboré, enfin pour une modeste part.
Et le
l'époque.
Sous-titre est charmant.
Le sous-titre,
de la flûte au tambour.
Ça, oui, c'est de la flûte au tambour, c'est-à-dire la flûte au tambour, c'est ce qui se passe sur la partition d'un compositeur. Voilà.
Qui part de la flûte pour voilà. Aller vers le rythme.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Alors, deuxième coup de cœur que vous nous avez apporté, Yvonne Gall. Pourquoi?
Alors Yvonne Gall était ma belle-mère, elle avait épousé Henri Bucer, c'était les secondes noces d'Henri Bucer. Elle avait été une des plus grandes cantatrices du siècle dernier. Elle a commencé dans Guillaume Tell, je crois, de Rossini. Elle a fait ses grands débuts à l'opéra dans Guillaume Tell, a chanté tous les grands rôles. Et évidemment, elle a chanté beaucoup international, que ce soit au Metropolitan de New York ou au Théâtre Colón de Buenos Aires, à la Scala de Milan, enfin partout. Une très très grande, très grande cantatrice. Elle a été une Marguerite extraordinaire, une Marguerite de Faust extraordinaire. Excusez-moi. Et pour je ne sais plus si c'était la millième ou la 3000e de Faust, enfin, il y a eu une grande représentation à l'opéra, où elle était la partenaire de Georges Thiel, qui était son partenaire de prédilection.
Très bien. Alors nous allons l'écouter justement dans Guillaume Tell, qu'on nous pardonne les imperfections du vinyle.
Oui, c'est aussi un disque. Ça, c'est un intro. Ça fait partie des introuvables, évidemment. C'est un disque de référence.
Très, très bien. Bah, alors à vos cassettes, on va dire.
Je ne sais pas ce que ça vaut au point de vue enregistrement.
Très bien. Merci beaucoup. Nous l'écoutons.
Oh,
Voilà, c'était Yvonne Gall, deuxième épouse d'Henri Bussère, cantatrice, qui chantait le Guillaume Tell de Rossini dans un enregistrement de 1918. Mmh. Vous comprendrez les craquements sur le vinyle.
Alors en écoutant cette musique, je me disais que c'était magnifique. Je me disais aussi que c'est toute une époque. Je pense que c'est pas seulement parce que c'était sur du vinyle. Et je voulais demander à Madame Bussère, elle qui a tellement l'habitude d'assister à des représentations, si elle pensait que les voix avaient changé ou les orchestrations peut-être avaient changé. Je ne sais pas, j'ai ressenti ça en écoutant ça. On a l'impression justement que c'est...
Je ne crois pas parce que c'est... Moi, je crois que ce qui a changé, c'est la prise de son.
Ah, vous pensez que c'est uniquement dû à la technique?
Oui, uniquement dû à la technique. Oui, bien sûr, parce que les voix n'ont pas changé. C'est uniquement dû à la technique d'enregistrement. Alors, Yvonne Gall, a été la créatrice d'un opéra qui a écrit Henri Bussère, qui s'appelait Les Noces Corinthiennes. Et c'est un opéra qui est tiré d'un ouvrage d'Anatole France, qui s'appelle Les Noces Corinthiennes, d'après une ballade de Goethe qui s'appelait La fiancée de Corinthe. Et Henri Bussère a eu l'idée quand même de soumettre ses textes et son livret à Anatole France. Et Anatole France en a été tellement content qu'il venait tous les dimanches pendant un certain temps. Il venait déjeuner chez les Bussère et tout se passait très très bien. C'est un souvenir extraordinaire pour toute la famille.
Je crois qu'il était moins content de
Thaïs. Il était moins content de ce qu'avait fait, de ce qu'on avait fait pour Massenet avec Thaïs, oui. Il avait trouvé que son roman avait été dénaturé, oui.
Voilà, alors Henri Bussère, rappelons-le, a traversé le siècle, puisqu'il est décédé à l'âge de 100 ans.
Il allait avoir 102 ans.
Il allait avoir 102 ans, il est décédé d'une coupe de champagne à la main le 31 décembre.
Oui, c'est ça.
En compagnie de Bernard Gavotti, vous m'avez dit.
Non, pas du tout, compagnie de deux de nos cousines. Non, huit jours avant, la télévision était venue chez lui avec Bernard Gavotti pour une émission sur Forêt.
Très bien.
Il avait donné des souvenirs de Forêt.
Alors, nous avons tous beaucoup plus de temps devant nous que nous n'imaginons, puisque je crois qu'après avoir dirigé les orchestres de l'opéra, etc., il a aussi été nommé directeur de l'opéra à un âge avancé.
Oui, bien sûr.
Il avait 85 ans, c'est ça?
Oui, à peu près. Il a été directeur de la musique à l'Opéra de Paris. Il avait été directeur d'opéra comique aussi.
Alors on peut peut-être évoquer ceux dont il a été l'élève et puis ceux qu'il a eu comme élève.
C'est-à-dire qu'on va évoquer, il a été élève de Gounod. Et il a succédé à Gounod au poste d'organiste du Grand Orgue de Saint-Cloud. Gounod avait demandé que ce soit lui qui lui succède. Mais surtout, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il a été très jeune, il a été Grand Prix de Rome. Et lorsqu'il est rentré de Rome, il a été engagé tout de suite à l'Opéra Comique comme chef des chœurs. Et il s'est trouvé qu'à cette époque-là, on répétait le Péléas et Mélisande de Debussy. Et il a été absolument fasciné par cette musique que personne n'avait jamais entendue. On n'avait jamais entendu une musique comme celle de Debussy, et surtout pas Péléas. Et tant et si bien qu'il a suivi toutes les études, tant et si bien que au jour de la troisième représentation, Messager, qui avait dirigé les deux premières, était obligé d'honorer un contrat qu'il avait en Angleterre. Et on a demandé, le directeur de l'Opéra Comique, Albert Carré, a demandé à Bussère, qui connaissait si bien la partition, de diriger. Alors naturellement, diriger la troisième de Péléas quand on n'a pas 30 ans, d'autant plus qu'il y avait eu des scandales terribles avec les deux premières. Et Debussy a été extrêmement satisfait, il a été très 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 content de la direction de Bussère. Et les représentations se sont très très bien passées. Les gens se sont habitués, c'est pas tellement la musique qui avait fait scandale, c'était les paroles. Le texte de Maeterlinck, c'était un drame, et les paroles de Maeterlinck faisaient rire, parce que, par exemple, certains actes, le mari trompé traîne Mélisande par les cheveux, et elle chante « Je ne suis pas heureuse ». Alors, évidemment...
Il y a de quoi.
Alors, ça faisait beaucoup rire tout le monde. Enfin, bon, il est né une grande amitié entre Bucer et Debussy, si bien que Debussy, là, je me souviens effectivement dans Péléas aux Indes galantes, il raconte que Debussy, la troisième représentation, le public, c'est très 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 bien passé. Debussy était acclamé, mais il s'était refusé de paraître sur la scène. Mais quelques jours après, Debussy et sa femme sont venus dîner un soir dans le petit appartement des Bucer à Saint-Pétersbourg. Et il lui a laissé un petit mot. Il lui avait apporté une partition de Péléas sur laquelle est écrit « À Henri Bucer, l'amitié reconnaissante de Claude Debussy ». Voilà. Mais alors, c'est allé plus loin, puisque Debussy lui a demandé d'orchestrer sa petite suite qu'il avait écrite pour piano à quatre mains et dont il n'était pas très satisfait. Il lui a demandé de l'orchestrer et cette orchestration et cette petite suite sous cette forme-là fait le tour du monde et est toujours très très jouée.
Alors,
on la joue même dans les ascenseurs.
C'était une référence universelle. Mais nous en avons un enregistrement par l'orchestre de Philippe Binder, l'orchestre de Cannes, l'orchestre régional de Cannes Provençal-Côte d'Azur. Nous allons en écouter donc le premier mouvement. Et c'est en bateau. C'est la petite suite de Claude Debussy, orchestrée par Henri Bucer.
Thank you.
C'était la petite suite de Claude Debussy, le premier mouvement en bateau, orchestré par Henri Busser. Un disque que je vous recommande, qui se trouve toujours dans les bacs de l'Orchestre Régional Provençal-Côte d'Azur de Cannes, dirigé par Philippe Binder, un disque de musique française qui est le même acabit que ce premier morceau et qui est charmant de bout en bout.
Et en bateau, pourquoi en bateau ?
Ben c'est une suite qui a été inspirée à Debussy par les toiles de Watteau, l'embarquement de Pont-Citerre, les fêtes galantes, tout ça.
Voilà. Voilà, les peintres ont inspiré les... Non, je me fais penser simplement que souvent. Les peintres ont beaucoup inspiré les musiciens.
Ah, ouais. Souvent.
Oui, absolument. Souvent. C'est intéressant d'ailleurs le cheminement de ce qu'un tableau, de ce qu'une image peut se transformer, amener les sons.
Oui, bien sûr.
Alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCF, les moments musicaux de l'Académie Clémentine, que nous recevons aujourd'hui Aurore Busser, en compagnie de Nicole Sabag, et que nous avons commencé par évoquer son beau-père, Henri Busser, le compositeur. Alors, il était aussi très pédagogue, puisque vous m'avez dit qu'il avait eu, parmi ses élèves, 26 élèves qui avaient
Enfin, je passe un petit peu parce qu'il avait une énorme activité, évidemment, à l'opéra. Il avait aussi sa vie de compositeur, parce qu'il a quand même composé de nombreux opéras, de nombreuses pièces aussi instrumentales. Il a écrit aussi un précis de composition qui fait toujours autorité, enfin, qui est le livre de chevet de beaucoup de compositeurs. Et il a eu la classe de composition au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Et dans cette classe de composition, il a formé pas moins de 26 prix de Rome, dont, alors ça je peux vous en citer quelques-uns que vous connaissez, mais qui ont eu même certains des destins différents, tout en étant de grands compositeurs de musique classique. Alors vous avez Marcel Landowski, qui a été quand même le grand patron de la musique en France. Vous avez Henri Dutilleux, que personne ne présente plus. Vous avez Jean-Michel Damaz, qui a écrit des ballets magnifiques et qui a écrit aussi un opéra qui s'appelle Madame II, d'après le fameux roman de Louise de Villemorin, et qui a écrit les grands ballets du Marquis de Cuevas, il a écrit Piège de lumière, ce qui a été le grand rôle de Rosella Hightower. Vous avez Pierre Petit, qui a écrit de nombreuses pièces et un opéra comique qui s'appelait La Maréchale Changène, mais qui était surtout pendant très longtemps le critique du Figaro, et vraiment un de mes amis un de nos amis les plus charmants. Vous avez Georges Delru, qui a fait toutes ces musiques de films magnifiques. Vous avez Gérard Calvi, qui a eu le prix de Rome en même temps que son frère jumeau, dont j'ai oublié le prénom. Il s'appelait à l'époque Gérard Crétly, et son frère, il s'appelait Grégoire Crétly, et son frère s'appelait, je ne sais plus comment, enfin Crétly aussi. Vous avez toute une cohorte de jeunes musiciens. Vous avez aussi Claude Delvincourt, qui a été un grand directeur du conservatoire.
Voilà, et vous m'avez aussi dit qu'il avait bien connu Charpentier.
Ils étaient très amis, oui. Étaient très très amis avec Charpentier, ils étaient très amis avec Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn est mort très jeune, lui. Mais ils ont eu un destin un peu parallèle au point de vue musique, puisqu'ils étaient tous les deux... compositeur, chef d'orchestre, et Reynaldo a été directeur artistique du Casino de Cannes pendant que Busser était directeur artistique du Casino d'Aix-les-Bains. Enfin, ils ont eu une carrière assez parallèle et très, très confraternelle parce que lorsque Reynaldo Hahn a vu qu'il allait mourir, il a demandé à Henri Busser de terminer son opéra qui s'appelle Le Oui des jeunes filles. C'est un opéra charmant qui a été donné à l'Opéra Comique et qui est une très 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 belle musique. Et en parlant d'Henri Bucer et des opéras des autres, je peux dire que la famille de Gounod, dont il avait été l'élève, lui avait demandé de réhabiliter le dernier acte de l'opéra Mireille, qui avait brûlé, et dont la partition avait brûlé dans l'incendie de l'opéra comique. Si bien que tout le... Henri Bucer se souvenait des lignes de chant, mais il a refait toute l'orchestration.
Magnifique. Mmh. Voilà. Donc, maintenant, je propose d'écouter vos coups de cœur, en dehors des coups de cœur familiaux. On écoutera plus tard votre premier G lorsque je vous ai posé la question, qui est Schubert. Mais le coup de cœur le plus récent, c'est Jordi Savall.
Oui, alors Jordi Savall, voilà, j'étais le dernier soir du Midem classique, j'étais à la cérémonie des Classical Awards, et j'ai dîné, et Jordi Savall a été nommé pour un... Et il a eu un award pour je ne sais plus quel enregistrement. Mais après, nous sommes trouvés à la même table pour dîner et il m'a parlé de son dernier disque, de son dernier CD qu'il m'a fait écouter. Et j'ai été séduite. Je connaissais évidemment la personne de Jordi Savall, qui est un érudit, qui est un homme extraordinaire, et sa femme aussi, qui est une femme merveilleuse. Et j'ai été très, très surprise de trouver... ce petit album presque, hein, c'est un album qui est présenté comme...
Oui, c'est un CD magnifique.
Un CD magnifique, c'est présenté comme un bijou précieux et qui s'appelle, alors je vais vous expliquer puisqu'il faut que je prononce très bien, Escampis et Danse Royale, le manuscrit du roi 1270-1320, et ce roi, il s'agit de Philippe le Bel. Et Jordi Savall est allé retrouver à la Bibliothèque nationale tous les manuscrits de ces danses, d'ailleurs dont les copies figurent sur le petit fascicule qui est à l'intérieur. Et j'ai été, alors après je l'ai écouté, j'ai été vraiment séduite, j'ai eu un coup de cœur pour ces estampes et ces danses qui nous arrivent du fond des âges, parce que les estampes sont encore plus anciennes. Alors là, c'est une danse que nous allons écouter.
Nous allons d'abord écouter une danse et puis on reviendra sur une estampe après. Alors, une danse
du roi, royale.
Danse royale, Philippe le Bel, Jordi Savall. Thank you. Écoutez, c'est magnifique. Est-ce que ce rythme, cet entrain, est-ce que...
Oui, puis je trouve que aussi c'est la pureté de ces instruments. Enfin, c'est toujours... Aujourd'hui, ça va, c'est toujours la perfection.
Alors, ça tient à la partition ou aux musiciens ?
Ça tient beaucoup aux musiciens. Ça tient beaucoup aux musiciens. Mais je me demande si... Parce que depuis l'Antiquité, on sait que les rois dansaient, hein, le roi David et tout ça. Je me demande si Philippe le Bel dansait, lui, qui était si...
Et je pensais à ça également et je me disais que finalement c'était une belle image de Philippe le Bel qui n'est pas que le méchant roi des Templiers ou autre. Je pensais à ça, je me demandais si on dansait à la cour de Philippe le Bel ou quand Jacques de Molay n'était pas en train de brûler les Templiers. J'espère voilà. Que oui, en tout cas.
En tout cas, c'est... oui, puisque ce sont les danses royales.
Voilà, je trouve qu'on peut dire merci à Jordi Savall.
Mais jusqu'à maintenant, ce type de pièce était joué de manière un peu compassée. Enfin, c'était on sentait beaucoup de rigueur.
Alors Jordi Savall, il met beaucoup de vie, oui. C'est pas du tout figé.
Voilà. Alors, maintenant, on va passer à votre coup de cœur spontané, favori et premier, fantaisie. Voilà. De Schubert.
Oui, c'est ça.
Alors d'abord, je crois que vous aimez Schubert.
Ah oui, j'aime Schubert. Je crois que j'aime Schubert par-dessus tout. J'aime Beethoven, j'adore Mozart, j'adore... Mais Schubert, ça, il me parle davantage.
Pourquoi ? C'est son romantisme, son côté...
C'est ce qui... Que ce soit dans ses leaders, dans ses symphonies, dans ses pièces de musique de chambre, je crois que c'est quelqu'un qui correspond tout à fait à ma personne, à ma personnalité, je n'oserais pas dire, mais qui me correspond tout à fait.
Très bien. Eh bien, écoutez, alors nous écoutons, je crois que la fantaisie, elle a été utilisée à Cannes pour servir de référence.
Oui, j'avais demandé à Gabriel Taquino, parce que je m'occupe beaucoup des Nuits du Suquet, je lui avais dit de la mettre toujours au programme quand il le pouvait, quand il avait un partenaire, puisque c'est à quatre mains. Moi, parce que j'avais envie que ça devienne presque la pièce emblématique des Nuits du Suquet. Voilà.
Très bien, alors nous écoutons cette fantaisie à quatre mains, interprétée par Andreas Schiff et Rehmann. Les moments musicaux de l'Académie Clémentine avec ce coup de cœur d'Aurore Busser pour la fantaisie à piano à quatre mains de Franz Schubert, dont j'apprécie également formidablement l'humanité, d'autant plus que cette émission prend son titre des moments musicaux de Schubert. Alors voilà, alors nous manquons de temps pour diffuser tous les coups de cœur que Aurore Busser nous a proposés. Donc, je vous propose, chère Aurore, de revenir le mois prochain et nous diffuserons d'autres coups de cœur et d'autres jolis morceaux de musique. Merci Aurore Busser, merci Nicole Sabag et à tous au mois prochain. Merci.
Merci, au revoir.